Hello, Mortimer! Ah, mon cher Black. Désolé d'interrompre vos vacances, Mortimer, mais ça va mal.
Nesta!
Oui, monsieur?
Faites mes bagages.
Bien, monsieur.
Mais capitaine, vous n'allez pas...
Inutile d'insister, je lève l'ancre.
Corne debout! La barre à bâbord, tout! Arrêt à virer!
Alix, laisse ton bouclier, viens!
Vite! Les gladiateurs gagnent sur nous!
Captivant, captivant.
Allô?
Commandant Moran?
Oui?
Mon lieutenant, vous me laissez faire équipe avec Tanguy, s'il vous plaît?
Accordez la verdure,
ah,
vous
merci.
Parlez avec Tanguy.
Captivant, captivant. Le magazine de la bande dessinée.
Voici Raskar Kapak, celui qui déchaîne le feu du ciel.
Captivant, captivant.
Premier, Michel Vaillant, sur Vaillante numéro 10.
Captivant, une émission de Marc Dacier.
Je bois le restant de ma gourde de potion magique. Et on y va.
Bonsoir à toutes et à tous. La Saint-Valentin nous fournit ce soir le thème d'une émission spéciale réalisée par Christian et qui sera entièrement consacrée à l'amour dans la bande dessinée.
Moi, je sais depuis hier soir comment faire pour embrasser les filles.
Tu pourrais m'expliquer alors parce que moi j'ai du mal.
Évidemment, François, tu t'y prends comme un méga moisi du slip. Tu dois te faire passer pour un super zéro.
Un super zéro? Tu crois pas que t'en as déjà assez sur ton carnet de notes?
Mais non, du naze! Un zéro comme dans les films. T'as juste à sauver la fille et alors tu deviens son zéro. Et alors là, mon gars, elle te fait un méga kiss.
J'en suis pas sûr. Ma mère dit toujours à mon père que c'est un zéro, mais elle l'embrasse jamais.
Ouais, mais c'est vachement dangereux de faire le zéro. Tu peux te faire atomiser par un super killgun.
Et y a même pire, tu peux te prendre un hélico en plein dans les pesticules.
Bah en vrai, les zéros, ils prennent zéro risque. C'est que des sales trouillards là-bas. Et c'est les cascadeurs qui font rien que tout le boulot. Là, enfin, vraiment, c'est des blaireaux.
Dans le deuxième tome de la série Titeuf, intitulé « L'amour, c'est peau propre », le gamin créé par Zep expliquait « Si on est amoureux, il faut mettre sa langue dans la bouche d'une fille et puis tourner dedans, pour chercher quelque chose sûrement. Et si on trouve rien, bah, il faut prendre une pelle et puis on lui roule une pelle, enfin je crois. » Titeuf n'a pas forcément tout compris à l'amour, mais nombreux sont les autres personnages de bande dessinée plus âgés que lui qui fêtent la Saint-Valentin, comme nous allons le voir ce soir. Après s'être demandé si les grands héros de la BD classique peuvent être amoureux, nous verrons comment les auteurs de bande dessinée traitent du thème de l'amour au quotidien, comment ils racontent les grandes amours de l'histoire, et nous conclurons en nous demandant comment ils illustrent l'amour physique.
Shut up!
Ce soir sur RVE, Captivant profite de la Saint-Valentin pour parler de l'amour dans la bande dessinée. Avec une question pour commencer, le héros classique peut-il être amoureux? Pendant des décennies, à l'époque où la BD était uniquement destinée aux enfants, la réponse a été non. Tintin a vécu 1000 aventures dans le monde entier, mais aucune d'elles n'a été une aventure amoureuse. Pas le moindre petit soupçon de flirt pour le reporter à la houppette. Pourtant, avec le temps, l'univers d'Hergé s'est enrichi d'une dimension sentimentale venue de son seul personnage féminin, la Castafiore. Dans l'antépénultième album de Tintin, Les bijoux de la Castafiore, on devine que la spectaculaire cantatrice est secrètement amoureuse du capitaine Haddock. Un amour qui n'est pas réciproque, le professeur Tournesol, par contre, est plus que séduit par la Castafiore.
Voilà, chère madame, permettez-moi de vous offrir ces roses blanches. Si, ce sont les premières d'une variété que je viens de créer.
Oh là 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 là.
Oh, je leur ai donné le beau nom de Bianca.
Merveilleuse, ravissante, quel odeur adorable, professeur Tournebrons.
J'en prie.
Et ces parfums. Oh, mais hélas, il faut partir.
C'est ça, il faut revenir. Très bien.
Alors, adieu, ami Tintin. Adieu, capitaine Haddock.
Haddock, viens.
Bravo. Adieu, professeur Tourniquet.
Au revoir, madame. Bon voyage.
Arrivederla. Et soignez bien mon coco.
Hein. Soyez tranquille.
Allez. Au revoir.
Au revoir.
Et revenez vite.
Oui.
Oh, Trifon.
Avec les années 60, après la création du journal Pilote, le héros de BD gagne le droit d'être enfin amoureux. Michel Vaillant épouse Françoise, une journaliste. Blueberry succombe au charme de la belle aventurière Chihuahua Pearl. Buddy Longway fonde une famille avec l'indienne Chinook. Les Dalton eux-mêmes découvrent le sentiment amoureux. Dans un Lucky Luke de 1968 intitulé Dalton City, le premier album paru en feuilleton dans Pilote et non plus dans Spirou, les auteurs Goscinny et Morris semblent vouloir compenser les longues années de censure imposées par Dupuis en évoquant une histoire de séduction et d'amour. Joe et William Dalton succombent en effet au charme d'une chanteuse de saloon, Lulu Carabine, au point d'en venir aux mains. Natacha, l'hôtesse de l'air sexy créée par François Walteri dans Spirou, entretient depuis toujours avec son confrère, le steward Walter, une relation qui est peut-être seulement amicale, mais s'apparente quand même furieusement à une relation de vieux couple. Écoutons Walteri nous parler de Walter.
Il était tout à fait anodin quand il a commencé dans les histoires de Natacha. Il était le second rôle pour prendre les coups. Il est devenu quand même une personnalité à partir du, je pense, d'un album qui s'appelait Instantané pour Caltech. Là, il avait une plus forte présence dans l'histoire. Et ça, j'aimais bien. Il fait presque une histoire, presque avec lui, d'ailleurs. Maintenant, sur le sérieux, c'est toujours Natacha quand même, bien entendu. Mais c'est devenu le copain de Natacha et inversement. Maintenant, je ne sais pas ce qu'ils font ensemble. Ils se vouvoient toujours. Ils se vouvoient depuis le début. Alors qu'il n'est pas dit que... Vous voyez ce que je veux dire? Mais ce n'est pas dans l'histoire, ça. C'est à vous de l'imaginer. Peut-être qu'il ne s'est rien passé, je ne sais pas. Walter, en tout cas, c'est un personnage au second rôle qui a failli prendre le pas sur Natacha par moment. Mais malgré tout, Natacha est assez forte que pour rester seule. Je préfère une histoire seule avec Natacha. Je pense que ça marcherait sans Walter. Je crois. Elle est assez forte pour ça.
En 1967, dans l'album Astérix Légionnaire, René Goscinny et Albert Uderzo créent un personnage secondaire qui disparaîtra ensuite presque définitivement de leur série. Et pourtant, ce personnage va marquer les esprits d'une façon étonnante, restera dans toutes les mémoires et sera interprété à l'écran par Laetitia Casta. Blonde, mince et d'une beauté simple mais rayonnante, Falbala fait chavirer le cœur d'Obélix. Un vrai coup de foudre. Mais Obélix apprend vite qu'elle est fiancée à Tragicomix, un jeune et beau Gaulois engagé de force dans les armées de César. Pour le retrouver, Astérix et Obélix s'engagent également. Ils le retrouvent en Afrique et le ramènent au village. Pour remercier Astérix, Falbala lui fera un baiser sur le nez et celui-ci en perdra la tête au point de ne pas participer au banquet final.
Je cueille des fleurs, je fais le cornichon, je joue tout seul à saut de mouton. L'instant d'après, je suis abattu, je vois tout en noir, je voudrais qu'on me tue. J'ai des absences, je vois des lucioles, je suis mort de rire pour une babiole. Je sais pas ce que j'ai, je me sens tout chose, suis-je l'objet? J'irai en parler à tout le monde, leur dire combien je te trouve blonde. J'ai très envie de crier ton nom en plein milieu des réunions. Moi qui n'étais pas très soignée, je me suis surpris à me recoiffer. Je rentre le vent.
Marc Dacier. À l'occasion de la Saint-Valentin, nous parlons ce soir de l'amour dans la BD. Destinée aux enfants, la série Cupidon, signée par Covin et Malik pour Dupuis, met en vedette le petit dieu de l'amour. Décochant ses flèches au gré de sa fantaisie, il fait naître les passions les plus brûlantes et les unions les plus inattendues. Le manga Maison Ikkoku, créé en 1982 par Rumiko Takahashi, a pour héros un jeune étudiant, Godai. Vivant dans une pension privée, il prépare tranquillement sa thèse en compagnie de ses bruyants voisins jusqu'au jour où arrive Kyoko, la nouvelle gouvernante. Godai est tombé éperdument amoureux de la jeune femme qui se révèle être une veuve hantée par le souvenir de son ancien amour. Grand succès populaire au Japon, Maison Ikkoku est plus connue en France sous le nom de Juliette Je t'aime, dont la version animée a été diffusée sur TF1 à l'époque du Club Dorothée. De 1959 à 1972, dans le quotidien France Soir, Paul Gillon a dessiné les 4139 strips de 13 rue de l'Espoir. À cette adresse, située quelque part dans l'agglomération parisienne, se trouve l'atelier d'ébénisterie de Monsieur Morel. Celui-ci vit seul avec sa fille Françoise depuis le décès de sa femme. Jolie blonde sérieuse, un peu fleur bleue, Françoise connaît la joie des succès, les amours, mais aussi les angoisses, les revers, les séparations que vivent les filles de son âge. Mais jamais elle ne trouvera l'homme idéal, celui qu'elle aurait pu épouser. 13 rue de l'Espoir, le plus fameux des strips quotidiens français, est l'équivalent du célébrissime strip américain The Heart of Juliet Jones, Juliette de mon cœur en version française, dessiné à partir de 1953 par Stan Drake. Brune, élégante, réservée, Juliette Jones vit avec son père, un veuf retraité, avec sa jeune sœur Eve, une jolie blonde insouciante aux amants aussi nombreux que ses déceptions sentimentales. Le trio habite Devon, petite ville paisible des États-Unis. Au fil des années, le personnage de Juliette évolue. Contrairement à la Françoise de 13 rue de l'Espoir, Juliette Jones finira par se marier avec le chef de la police criminelle et deviendra maire de sa bonne ville. Adolescent banlieusard imaginé par Jackie Berroyer et Jean-Pierre Gibras en 1978 dans l'hebdomadaire BD, Goudard intègre Pilote en 1982 où sa route croise celle de Valérie, héroïne d'une autre création de ses auteurs, livre « La Parisienne ». Les deux adolescents s'apprécient, s'aiment, finissent par se marier. L'arrivée d'un bébé oblige Goudard à travailler dans un garage. On le voit, l'histoire de Goudard est une chronique du quotidien. On peut en dire autant de la série « Les Bidochons » de Christian Binet. « Roman d'amour » est le titre du premier tome de la série en 1980. On y fait connaissance avec Robert et Raymond Bidochon, qui, pour leurs 10 ans de mariage, se souviennent de leur rencontre, de leur voyage de noces, de leur premier appartement et de leur chien Cador. Entretenir une histoire d'amour au quotidien n'est pas une chose aisée pour un héros de BD, et ce n'est pas Peter Parker qui dira le contraire.
Je t'aime tellement.
Tout ce que je voulais, c'était lui dire à quel point je l'aimais.
Je peux pas. Tu ne peux pas quoi ?
Je ne peux pas te raconter toute ma vie. Il y a tellement à dire.
Oui. Il y a tellement à dire.
Je veux que tu saches que quoi qu'il arrive, je serai toujours là pour toi. Que je serai toujours là pour veiller sur toi. Et ça, je te le promets. Je serai toujours ton meilleur ami.
Seulement mon ami ? Peter Parker.
C'est tout ce que j'ai à offrir. Quoi que puisse me réserver la vie, jamais je n'oublierai ces mots. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. J'ai reçu là un don, une malédiction. Qui je suis ? Je suis Spider-Man.
Les histoires d'amour finissent mal en général, dit la chanson. C'est aussi ce que pense Florence Sestac, auteure de l'album Le démon de midi en 1996. Avec ce récit autobiographique sans l'avouer, Sestac raconte la fuite du mari avec une jeunette, la vie solitaire avec les enfants, le retour vers une vie normale après le passage de ce cyclone nommé démon de midi. Une galère contée avec humour et émotion sans jamais tomber dans le larmoyant et qui inspirera une pièce de théâtre et un film.
Plusieurs indices m'ont mis la puce à l'oreille, j'ouvre à l'œil. Je vais faire une enquête pour en avoir le cœur net, ça m'inquiète. Il y a des détails qui trompent pas, les draps, la couette et la tête oreiller sont plus dépareillés. À côté de mes fringues en boule, il y a des vêtements pliés et repassés. Il y a des détails qui trompent pas, je crois qu'il y a une fille qui habite chez moi. Deux brosses à dents dans la salle de bain, du savon sans savon, et ses cheveux, c'est certainement pas le mien. Des petits coups bizarres pour parfumer la baignoire, c'est un vrai cauchemar. Quelqu'un a massacré tous mes amis cafards. Dans la cuisine, des sachets de thé, de verveine, de camomille. Un message répondeur d'une mère qui est pas la mienne, v'là qu'elle s'en prend à ma famille. Y'a des détails qui trompent pas, quelqu'un traître a fait la vaisselle. Où sont mes habitudes, mon ménage trimestriel? J'ouvre le frigo, horreur, mais c'est de la folie. Y'a plein de légumes, ah, y'a même des fruits. Y'a des détails qui trompent pas, j'crois qu'il y a une fille qui habite chez moi. Sont mes potes qui glandaient devant la télé, les boîtes de pizza, les paquets de chips éventrés, les mégots de cigarettes écrasés dans les assiettes, ma collection de new look aux oubliettes. De nuit, y'a plus de capote, mais de l'aspirine. Y'a une fille qui habite chez moi. Il y a aussi des bougies contre l'odeur de la nicotine. Il y a une fille qui habite chez moi. Il y a des détails qui trompent pas. Il y a un vrai rideau, il n'y a plus le drap qui est sur la fenêtre. Qu'est-ce que c'est que ça, mon Dieu, mais c'est une plante verte, hein. L'aspirateur est encore chaud, c'est trop, je porte plainte. Je vais l'emmener au labo pour vérifier les empreintes. On dirait que je suis plus célibataire. La coupable, je la tiens, elle est devant moi. Mes taux se resserrent, accrochés au téléphone. Assise en tailleur, dans une jolie robe à fleurs. Une fille me dit, arrête ton cinéma et le loyer, je le paye autant que toi.
RVE, positivement différent.
Captivant profite ce soir de la Saint-Valentin pour parler de l'amour dans la bande dessinée. On l'a vu tout à l'heure, entretenir une histoire d'amour au quotidien est un vrai défi pour un héros de BD. Selon Jacques Martin, le créateur d'Alix, c'est même une chose interdite. Et pourtant, certains personnages illustres ont succombé au charme d'Alix.
Quand Cléopâtre va tomber dans sa baignoire, là, et je ne sais pas ce qu'il va faire, mais il va peut-être pas refuser. Non ? Dans le Prince du Nil, quand Saïs lui tombe dans les bras, il n'a pas l'air malheureux. Non, mais je suggère des choses, je ne les décris pas. Ça, c'est la règle des séries. Si un héros s'arrête, se marie, a des enfants, l'aventure est finie. Tous les auteurs qui ont essayé ça se sont cassés la figure. Je ne vais pas vous donner des noms parce que je ne veux pas être méchant, mais ça ne va pas. Vous imaginez, j'aime tout le monde se marier, mais c'est fini. Ou bien alors, il court le monde avec, en cherchant des espions de toutes les sortes, on peut s'imaginer, mais il laisse Bobonne et les enfants à la maison. C'est pas sérieux, ça ne va pas. Non, écoutez, il y a une règle dans les séries, il faut la respecter. Le héros ne vieillit jamais, il s'arrête jamais, il se marie jamais.
Le destin tragique de Roméo et Juliette semble confirmer la règle affirmée par Jacques Martin. En 1975, André Julliard a signé une adaptation en BD du drame de William Shakespeare dans les pages de l'hebdomadaire Gin. En Italie, c'est Gianni De Luca qui a livré une superbe version de Roméo et Juliette dans Il Giornalino en 1976, traduite en France par les Humanoïdes Associés en 1981. Les exploits de Don Juan, un texte sulfureux et méconnu de Guillaume Apollinaire où le héros multiplie les aventures galantes, est magistralement adapté en 1981 par Georges Pichard, le maître de la bande dessinée érotique française. Quant à la série Giacomo C, écrite par Jean Dufaux pour le dessinateur Griffo, elle nous entraîne dans la Venise du XVIIIe siècle sur les traces d'un personnage hors du commun. Mi-gentilhomme, mi-escroc, jouisseur de tous les plaisirs de la vie, il a ses entrées dans toute la ville. Nul n'est indifférent à sa personne, il provoque l'envie, la jalousie, la haine, l'amour, l'amitié. Son nom, Giacomo C, c'est comme Casanova bien sûr. Pendant plus de deux décennies, à partir de 1950, le quotidien France Soir a accueilli une série proposée sous forme de strips verticaux intitulée « Les amours célèbres » et racontant la vie amoureuse des plus célèbres personnalités de l'histoire. D'une longueur plus ou moins importante, de quelques bandes à une centaine, ces récits sont présentés avec un long texte sous des images sans bulles. La Fontaine, Chopin, Richelieu, Rembrandt et des dizaines d'autres personnages voient leur vie intime dévoilée. Sous le trait de certains dessinateurs fameux tels que Julio Ribera, Jean H. ou Jean-Claude Forest. Le succès des amours célèbres de France Soir incite le quotidien Paris Jour à créer une série du même type. Les plus belles histoires d'amour comptent les vies amoureuses de célébrités de l'histoire. Entre Anne Bonny et Mary Read et Louise Michel, plus de 100 récits sont proposés entre 1962 et 1971, dessinés notamment par Pierre Frisano et Angelo Di Marco. Sambre, grande fresque romanesque créée par Isler en 1985, nous propose de suivre le jeune aristocrate Bernard Sambre, tombé sous le charme morbide de Julie la Sauvageonne. Poursuivie par la haine de Sarah, la sœur de Bernard, accusée d'un meurtre, Julie quitte la province pour gagner Paris, suivie par Bernard. C'est dans une capitale qui s'apprête à vivre la révolution de 1848 que le couple commence à partager un amour impossible dont la seule issue semble être la mort. Tout aussi romantique que sombre, mais plus drôle que tragique, l'album La fille du professeur, signé Sfar et Guibert en 1997, nous emmène à Londres à la fin du 19e siècle. Une momie égyptienne se réveille devant Liliane, fille d'un archéologue. La jeune fille accompagne l'ex-pharaon, à qui elle apprend à vivre dans un monde dont il ignore tout. Sa nouvelle amie est tentée d'enlever les bandelettes qui cachent son visage, mais Imhotep IV restera un mystère. De la Saint-Valentin, nous parlons ce soir de l'amour dans la BD. L'amour comme sentiment, mais aussi l'amour physique. En 1988, sous le gouvernement de Margaret Thatcher, la clause 28 interdit aux autorités locales britanniques, en charge notamment de l'enseignement, de promouvoir l'homosexualité ou de présenter celle-ci comme acceptable en tant que prétendu lien familial, je cite. Le grand scénariste anglais Alan Moore, créateur de V pour Vendetta, Watchmen ou La Ligue des Gentlemen Extraordinaires, décide alors de s'engager. Nombre d'auteurs de BD se joignent à lui et c'est ainsi qu'Alan Moore, Neil Gaiman et Kevin O'Neill publient ARG, Artists Against Rampant Government Homophobia. un recueil publié par Mad Love Publishing, maison d'édition que Moore a lui-même créé. Il y signe un texte ambitieux retraçant l'histoire des homosexuels des origines à nos jours, The Mirror of Love, illustré par les dessinateurs Steve Bissett et Rick Veitch. Au-delà de l'homosexualité, c'est à une célébration de l'amour universel que Moore nous convie. De Gottlieb à Joe Matt, la confession intime en BD a déjà sa tradition, mais rares sont les récits confessionnaux où l'acte d'amour est décrit de façon explicite. La singularité a longtemps distingué Fabrice No et son journal, 4 volumes chez Ego Comics, qui nous a livré quelques pages poignantes de sa vie sexuelle. Ouvrant un domaine inexploré de l'autobiographie, sa démarche avait étonné et choqué certains. Paru aux éditions Impressions Nouvelles, l'album d'Aurelia Orita, Fraises et Chocolat, n'est pas seulement un formidable poème amoureux raconté sans retenue ni pudeur et qui célèbre les plaisirs intimes de l'amour, il est surtout un discours sur le plaisir qu'attend la femme de l'homme, et ceci exprimé avec d'autant plus d'impudeur que l'objet du désir n'est autre que Frédéric Boilley, auteur de Tokyo et mon jardin chez Casterman. En lisant Fraises et Chocolat, on pense au texte sur la passion charnelle et littéraire de Henry Miller et Anaïs Nin. Aurelia Orita, française d'origine chinoise et khmère, se revendique clairement de cette dernière. Après l'amour est le titre d'un album de Miguel Anxo Prado, paru en 2006 chez Casterman. Le maître espagnol y raconte 8 histoires de femmes, regardant autour d'elles, faisant le point sur leur vie, leurs hommes, leurs amours. Chacun de ces récits mélancoliques dit la difficulté de l'amour, le désenchantement, l'inassouvissement du désir. Pour cette partition tout en délicatesse et en subtilité, pleine de silence, Prado l'esthète joue la retenue, la sobriété. Sertie dans d'épais filets noirs, chacune de ces vignettes frémissantes de sensibilité, presque monochrome, est aussi une somptueuse leçon de dessin et de cadrage. C'est la fin de ce numéro spécial de Captivant réalisé par Christian et consacré au thème de l'amour dans la BD. On se quitte comme d'habitude avec quelques notes de jazz. Paul Chambers et Cannonball Adderley, There is no greater love. Très bonne Saint-Valentin et à la semaine prochaine.